On a un data scientist qui a monté un outil de matching, et cet outil de matching-là permet d'envoyer automatiquement des biens qui correspondent à des attentes d'une personne. Et donc le data scientist fait son call, le consommateur dit « Mais non, mais c'est génial, j'ai adoré, c'est trop bien et tout, mais si je peux me permettre, il y a quand même un truc que je trouve, c'était au lancement, je trouve pas trop bien, c'est quand même que votre outil de matching, il est déconnant parce qu'il ne voit pas du tout ce que je dois avoir. » C'est le data scientist qui ne parle jamais au client, qui sur le call en speaker avec toute l'équipe, le consommateur lui dit c'est génial business-wise, mais le
Techniquement,
matching
ça y est
qu'on
pas
venait de
quoi, en
lancer, le
fait.
matching qu'on venait de lancer, ça marche pas. Et donc là, on raccroche, fou rire général, ah mais en fait j'ai appris un truc sur ce que je fais dans mon bureau et je ne vois jamais le consommateur et là j'ai vu l'impact direct que ça avait.
Travailleuses, travailleurs.
1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau général.
Quoi qu'il en coûte.
Qui décrochera le job?
Patati et patata.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Pour remettre de l'ordre dans tout cela, on est ravis de recevoir notre expert du jour, Thomas Venturini. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Co-fondateur et CEO de Liberkeys.
Merci pour votre invitation. Ravi d'être là.
Liberkeys. Déjà, le nom est super. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça parle tout de suite. Donc, les clés, immobilier, achat, etc. En une seule phrase, le leitmotiv, la différence et la pertinence du service que vous proposez.
Alors, Liberkeys, c'est. En effet, merci pour le nom. C'est pas le cas de tout le monde de penser que c'est très simple. Mais
J'allais dire, franchement, ouais. Je viens de comprendre. Hein.
Parce que t'es pas du secteur, t'es pas de
métier de la. On a beaucoup le Libertykeys ou le Liberquiz, ouais, c'est assez marrant. Mais en tout cas, oui, on a un nom anglo-saxon, puisqu'on a une volonté d'expansion à l'Europe. Donc, Liberkeys, c'est quoi? C'est une solution de vente immobilière qui allie humain et technologie. Et qui s'occupe de la vente de votre logement de A à Z, donc de l'estimation jusqu'à l'acte authentique, en passant par la réalisation des visites. Et on le fait avec une commission fixe de 6500 euros payée au succès.
Ok, uniquement au succès.
Uniquement au succès.
Ok.
Sans collaborateurs aujourd'hui, en France, uniquement
En France uniquement, ouais. On est même plus proche des 130.
D'accord.
En effet.
Alors, parlez-nous un petit peu de votre réseau. Tout le business Liberkeys est assis donc sur un réseau. Donc, vous avez à l'intérieur des personnes en CDI, j'ai cru comprendre, et des indépendants.
Oui.
Vous avez deux types de formats. Pourquoi?
Alors, si je reprends du coup la solution qu'on est en train de proposer, ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est qu'il y avait un mismatch entre le prix et le service sur le marché de l'immobilier en France. Mmh. Et donc, du coup, nous, notre logique a été de se dire, OK, on va reprendre le service, on va l'augmenter, on va lui mettre tous les codes start-up qu'on connaît. Et puis ensuite, on va aussi réduire le prix, le rendre très compétitif. Et du coup, on va rematcher tout ça pour permettre à la fois aux vendeurs et à l'acheteur de vivre une meilleure transaction immobilière. Mmh. Ceci étant dit, quand on commence, on se rend compte que très rapidement, la transaction immobilière, c'est complexe, c'est chronophage. Il y a énormément de tâches pluridisciplinaires qui sont à faire par l'agent immobilier.
C'est pour ça que ça coûte cher, alors.
Donc en fait, on comprend en fait que il y a peu d'efficience et il y a beaucoup de travail. Et donc, en effet, c'est une des raisons pour lesquelles les agences immobilières sont pas si rentables que ça, le sont quand même, mais ont un commissionnement assez élevé.
Parce que ce qu'on entend souvent, c'est un agent immobilier, il va poster une annonce, il va recevoir les appels et puis il va programmer les visites.
C'est ça. Et en fait,
ça
l'agent
va plus
immobilier,
loin de ça, en fait, l'agent immobilier.
Ouais, il va signer 10 mandats, il va en vendre un. Donc, il va travailler pour 10 personnes et c'est une personne qui va payer pour les 10. Et donc, c'est un peu le problème de l'immobilier en France, c'est qu'il y a un taux de mandat exclusif sur le marché qui est relativement bas par rapport à d'autres pays comme les US. Et donc, du coup, en mandat simple, vous avez une compétition sur le même mandat de plein d'agents immobiliers. Et donc, on a l'impression que l'agent immobilier ne bosse pas, mais en fait, il fait plutôt de la prospection. Mmh. Il est plutôt en recherche de mandat et il bosse plusieurs mandats en même temps, mais en fait, il va être payé que sur un.
Ça, c'est exclusif à la vente, à la France, pardon. En fait, la France a un fonctionnement où on a envie de mettre plusieurs agents immobiliers en non-exclusivité.
Alors, malheureusement, c'est un des pays leaders sur, sur le mandat simple et même sur la vente entre particuliers. Et donc, nous, quand on comprend ça, on se dit en fait que c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, si on veut vraiment rematcher prix et service, il va falloir qu'on fasse le pont entre les deux par la technologie. Mmh. Et donc, ça a été un ADN très fort depuis le début chez nous, chez Liberkeys, depuis le lancement en janvier 2018. Et donc, on a eu à cœur.
Faudra nous expliquer, pardon, la genèse aussi. Hein, c'est la prochaine question de comment ça s'est créé et pourquoi.
Bien sûr. Et donc, du coup, développement de technologie assez fort pour créer l'agent augmenté. C'est vraiment ce sur quoi on se bat tous les jours, le rendre plus productif, plus heureux au travail et lui permettre de délivrer une meilleure expérience client. Tout ça avec, du coup, un service plus élevé et un prix plus compétitif. Et donc, on développe de la techno pour augmenter cet agent-là.
Voilà. Et la techno qui est derrière, c'est quoi ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Bien sûr, c'est
pas trop confidentiel.
Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est une techno qu'on a décidé au bout de 3 ans d'ouvrir à la profession, aux agents immobiliers traditionnels, pour leur permettre d'en bénéficier aussi, et eux aussi gagner en productivité et en délivrant des expériences clients.
Donc, ils ont accès à votre outil.
C'est quoi ? C'est comme un logiciel, en fait ?
C'est ça, exactement. Et donc, on a ouvert en SaaS, ça s'appelle Dome, et LiberKeys.
Et il permet de faire quoi, cet outil, ce logiciel ?
Alors, il y a 4 gros piliers sur lesquels on agit. Le premier pilier, c'est de l'automatisation. C'est-à-dire qu'il y a des tâches à non-valeur ajoutée qu'on a envie de supprimer. Typiquement, le secrétariat dans une agence, pour nous, on peut le digitaliser. Et donc, on peut réduire ce poste de dépense. Donc, on vient automatiser des tâches à non-valeur ajoutée. Deuxième pilier, c'est des tâches où il y a de l'humain. On veut garder l'humain parce que c'est important dans l'immobilier. Ou bien, on n'est pas assez avancé technologiquement. Donc, on ne peut pas supprimer cette tâche-là. C'est une tâche à valeur ajoutée. Alors, on va l'optimiser. On va apporter de la technologie pour aider l'agent sur le terrain. Ensuite, on a tout l'ensemble mobility, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agent immobilier, c'est comme un avion. C'est quand il est sur le terrain, quand il vole, qu'il rapporte de l'argent. Et donc, du coup, il faut l'aider à être à la fois augmenté au bureau, ce qui est le cas avec des softwares qui existent aujourd'hui, mais également dans le métro ou en voiture, en transport et chez le client surtout, chez le vendeur et avec l'acheteur chez le vendeur. Et donc là, on a tout cet ensemble mobile pour l'aider sur le terrain. Et puis enfin, le dernier élément, c'est comme on vient sur les 3 premiers piliers, automatiser, optimiser ou créer de la mobility, avec un parcours UX vraiment stellar, du coup, on est capable de l'aider à avoir envie de donner de la donnée et la rentrer dans le système. Du coup, on va avoir un ensemble de données qu'on va pouvoir collecter et on va utiliser en data science. Et donc après, on peut apporter des produits qui, là, viennent vraiment augmenter fortement la valeur de l'agent immobilier.
Okay.
Typiquement, vous avez des PV d'AG dans une transaction immobilière. C'est des PV dans lesquels vous avez généralement des problèmes. Ça prend du temps de le lire, vous ne les lisez pas, vous faites la transaction, elle pète pendant la promesse de vente parce que l'acheteur vient de découvrir quelque chose. Inversement, vous les lisez parce que vous voulez comprendre ce qui se passe. Et donc, à ce moment-là, vous perdez du temps, mais vous avez sécurisé votre vente. Aujourd'hui, il y a des scanners qui sont capables de lire et de ressortir de manière assez précise les différents éléments auxquels on doit faire attention pour éviter de lire, mais éviter de faire...
C'est quoi, c'est par mots-clés en fait ? C'est une alerte par mots-clés qui après scanne la phrase dans laquelle est ces mots-clés ou...
Ouais, c'est ça, c'est un modèle auto-apprenant.
C'est génial ça. Ouais, c'est très bien. Alors, quel est votre type de recrutement aujourd'hui sur ces fameux indépendants ? Est-ce que quelqu'un qui travaillerait dans un réseau concurrent vous intéresse ou alors vous voulez des nouvelles personnes ?
Est-ce qu'on embauche un réseau ou est-ce qu'on embauche une personne ?
Alors, on est assez pragmatique. On aime tout le monde tant qu'il est, fit, entre guillemets, à la fois notre culture et les compétences qu'on recherche pour le poste. Donc là-dessus, on est agnostique.
La cible, enfin le candidat pourrait être peut-être un peu déstabilisé parce qu'il va gagner moins chez vous dans un premier temps, peut-être.
C'est ce qu'il pense.
C'est ce qu'il pense.
Ouais. Mais c'est pas le cas.
C'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que vous apportez plus de volume ?
Exactement. En fait, alors on a 2 modèles. On a un modèle assez hybride avec notre premier modèle historique quand on lance LiberKeys en janvier 2018, qui est un modèle d'agent salarié, où là, du coup, on a segmenté l'ensemble de la chaîne de valeur avec des SDR, mon chaîne qui vont prendre des rendez-vous pour l'agent LiberKeys terrain qui va ensuite les transformer avec en fin de chaîne des administrateurs des ventes qui vont venir apporter leur expertise légale, sécuriser l'expérience client et les contrats. Et le cash, du coup.
Okay.
Et donc, on a cette partie salariée qui est historique, qu'on a dans les centres urbains qui sont très denses en volume d'affaires. Et donc, on va rapidement pouvoir saturer des équipes. Et comme ils ne sont pas indépendants versus salariés, c'est aussi un peu plus rentable. Et j'expliquerai après pourquoi. Et donc, du coup, on a développé ce modèle-là, mais c'est aussi très consommateur de BFR et très consommateur de risque. Et donc, ce BFR-là, il faut le payer. Parce qu'en fait, un agent salarié, bizdev, qui sort d'école de commerce... Généralement, il ne connaît rien à l'immobilier. Il faut lui apprendre. Ça prend 1 à 2 mois, 3 mois. Et ensuite, le temps qu'il acquiert du business, ça va prendre du temps pour signer un mandat. Et puis un mandat de vente, on est payé à l'acte authentique. Donc on est payé entre 4 et 6 mois après. Et donc toute cette temporalité-là, il faut la payer. Et donc du coup, vous avez payé quelqu'un pendant 6 mois qui vous a apporté zéro.
Ah, c'est une sortie de cash, c'est une avance.
Et donc plus, et c'est pas mal. Et on a plusieurs millions d'heures nous, chez Liberkeys qui ne sont pas encore payés chez, à Liberkeys. Et donc, plus vous grossissez, plus votre portefeuille d'annonces est gros, plus vous avez un nombre d'agents fort, et donc plus votre BFR va augmenter. Et plus vous croissez vite, plus votre BFR va augmenter vite.
Donc vous pouvez à un moment donné avoir un problème de BFR.
On peut avoir un problème de BFR. Donc on a,
ça, vous faites une levée
C'est pour ça qu'on s'est financé, à la fois pour la techno, parce qu'on on a une équipe tech et produit, et on a en effet un financement de BFR qui est nécessaire. Et comme c'est pas du retail avec des factures où on va être payé 60 jours après, etc., on peut pas faire du factoring dessus. Donc l'equity est intéressante pour se financer sur le BFR. Ça, c'est le premier point. Ensuite, du coup, nous, on a un deuxième problème avec les salariés dans les centres urbains, c'est qu'ils vont devoir être managés. Donc mécaniquement, il y a un bureau, il y a des bureaux avec des desks, des tables, quoi, et puis il y a un manager qui est là et qui vient manager du coup l'ensemble des équipes.
Classique.
Mais du coup, comment vous faites quand vous avez une ville à une heure de Paris qui est toujours dense et que vous voulez mailler, vous voulez mettre un agent dessus, vous faites faire des allers-retours à votre agent, comment vous faites pour aller un jour à Dunkerque, à Biarritz, etc., etc. C'est beaucoup plus compliqué, vous n'allez pas mettre un manager dans toutes les villes où vous êtes présent. Donc, à un moment donné, se pose la question de l'autonomie et de la proactivité de l'agent immobilier et du maillage des territoires et de la réduction de ce BFR. Et en fait, il y a un modèle qui est assez vieux dans l'immobilier, qui est celui de l'agent mandataire, donc qui est un entrepreneur, qui a sa propre entreprise, mais qui s'adosse à une entreprise, à un réseau de mandataires, à une marque, qui a une carte de transaction qui lui permet d'opérer dans l'immobilier.
On revient au basique, quoi.
Et on revient un peu au basique. Donc, on redécouvre un peu ce nouveau modèle, qui était nouveau pour nous, mais qui est assez vieux pour le marché. Et on l'explore et on essaie de le revisiter. Et donc, il y a deux ans, on a lancé
ce modèle. Parce qu'on a le sentiment que c'est plutôt un nouveau venu, IAD, enfin un nouveau venu, je ne sais pas depuis combien de temps IAD existe, mais...
12 ans à peu près, je
12 crois. Ans, en tout cas, depuis cette période que les mandataires sont très présents, en fait. Ils ont un maillage, en fait, géographique qui est vraiment très, très important. Et donc, pour le coup, vous tendez à devenir un peu un IAD digital.
Mais revisiter, c'est ça, c'est ce que tu allais expliquer, du coup, le côté revisiter, c'est quelle est la grosse différence?
Alors, il y a plein de différences, mais c'est vrai qu'IAD, ils ont 15 000 agents mandataires en France. Ils ont une croissance insolente de 40% par an. Ils viennent de lever 300 millions d'euros. Ils sont valorisés 1,5 milliard. Et ils sont quasiment exclusivement sur le marché français, même s'ils ont commencé à se développer dans d'autres pays. Donc, c'est là où on comprend aussi... Et ils ont 5% de part de marché. Donc, c'est là aussi où on comprend que le marché de l'immobilier est colossal. Il est aussi très fragmenté. Et que le numéro 1, à la limite, tout le monde peut un peu le devenir parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc si on arrive à trouver un élément différenciant et surtout qui plaît aux consommateurs, dans ce cas-là, on a toutes nos chances de réussir.
Vous-même, vous avez été agent immobilier avant ou...
Chez Liberkeys, oui, au début.
Chez Liberkeys. Comment est venue cette idée de créer Liberkeys pour le coup?
Alors, j'étais chez Amazon, je travaillais là-bas avant, un peu l'antre de l'expérience client.
C'est très présent dans le discours, l'expérience immobilière.
Oui, bien sûr. C'est vraiment notre mojo. Et c'est presque du lead, mais tous les jours, on se pose la question de comment est-ce qu'on peut la sécuriser, comment est-ce qu'on peut avoir un nouveau processus, même notre culture et nos recrutements. On pourra en reparler, c'est dans notre culture, c'est très présent aussi. Et on a des méthodes aussi pour faire vivre cette culture en interne. Donc, ça pourrait être intéressant d'en parler juste après. Et donc, en fait, je suis chez Amazon et je fais un investissement locatif. Et c'était en 2017 et je paye 15 000 euros de commission à un agent alors que c'est le notaire qui fait tout le travail. Je fais 1000 km pour signer des papiers. Alors pour moi, digitalement, c'était possible. J'ai pas eu l'eau chaude raccordée à la cuisine. Deux ans après, d'ailleurs, j'ai des travaux de cage d'escalier alors que tout l'immeuble était censé être refait à neuf. Donc je me suis retrouvé dans une expérience qui était... Et l'agent immobilier n'avait aucune disponibilité pour me faire visiter l'appartement. Donc j'étais obligé de m'adapter à son emploi du temps. Il n'y avait rien qui était structuré. J'étais obligé de rappeler 15 fois pour avoir un retour. Enfin bref, je pense que c'était assez douloureux. Et puis du coup, je regardais les stats du marché parce que j'aime bien les chiffres, et là je m'aperçois qu'en fait c'est le plus gros marché des économies occidentales. Et ce qu'on disait tout à l'heure, fragmenté, colossal, pas de tech, pas de digital, aversion du consommateur, 70% des consommateurs et des Français ont une mauvaise image de l'agent immobilier, 70% des Français essaient de vendre seuls, 30% d'entre eux seulement réussissent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à aller vers l'agent immobilier et à accepter de payer une commission élevée, mais ils n'arrivent pas non plus à vendre tout seul. Qu'en fait, on est face à vraiment quelque chose de très douloureux. Et en plus, c'est le projet le plus hautement émotionnel et financier de la vie d'un particulier. Et donc, du coup,
tous ces sujets s'entremêlent.
On s'est dit qu'il y avait un boulevard et qu'on pouvait essayer d'apporter quelque chose à ce marché, à la fois aux professionnels et à la fois aux consommateurs. Et on a toujours voulu inclure le professionnel dans notre démarche. On n'a jamais pensé que l'agent immobilier faisait du mauvais boulot. On a toujours pensé que le marché était mal structuré pour l'aider à faire du bon boulot et à délivrer une bonne expérience client.
Ok. Ouais, d'où le logiciel.
D'où le logiciel.
Qui est mis aussi en valeur chez les agents immo.
Demain, moi, je veux postuler chez vous. Je peux directement en fait, accéder à votre site. Même si je n'ai pas forcément l'expérience, même si je n'ai pas la carte immobilière, je peux m'engager, j'adhère à vos valeurs, je peux tout de suite en fait, devenir agent immobilier.
Tout de suite, non.
Ouais.
Alors en effet, tu vas pouvoir nous retrouver sur tout un ensemble de canaux assez classiques hein, qu'on utilise, comme Welcome to Jungle, qui est d'ailleurs génial parce que tu peux mettre des vidéos, des photos, tu peux parler de ta culture, tu peux vraiment expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Et donc déjà, naturellement, il y a un bon filtre, je trouve, parce qu'il y a vraiment des gens intéressés qui viennent candidater.
Pour les bonnes choses, quoi.
Exactement.
Okay. Et, sur la partie attractivité.
Ouais, sur la partie attractivité. Et puis après, on a plein d'autres choses, bien entendu, qu'on travaille. On a d'ailleurs nos collaborateurs qui parlent beaucoup de Liberkeys sur les réseaux. On essaie de mettre ça en place parce qu'on pense que c'est mieux que ce soit une communication collaborateur qu'une communication institutionnelle.
Il n'y a pas beaucoup d'immobilier sur les réseaux sociaux, au final.
Non.
Moi, je trouve qu'on voit toujours...
Tu veux dire qu'on recrutement sur les réseaux sociaux?
Oui, on voit toujours par région 5-6 agents IMO qui vont t'envoyer en fait, ce qu'ils ont vendu. Alors ça, c'est quand même incroyable. Je veux dire, c'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais finalement, pourquoi il y a beaucoup de branding qui se fait sur les réseaux sociaux.
C'est le, c'est le book du mec, quoi. T'as dit, voilà, ce que j'ai réussi à vendre, je peux le faire pour toi.
Donc, ouais, d'accord.
Quand toi, tu montes une créa pour dire, je ne vais pas te faire la même, mais je pourrais potentiellement être aussi créatif.
Mais du coup, on ne voit pas sur les réseaux sociaux les prochaines ventes. Donc, pourquoi Parce que ce n'est pas un espace...
Alors, c'est très local. Alors là, tu parles de quoi de choisir en tant que consommateur ton agent immobilier.
Vous, aujourd'hui, vous adressez vos clients uniquement en fait en démarchage sur du mandat, etc. Ou alors vous avez ouvert sur les réseaux sociaux, vous arrivez à avoir des gens qui viennent vous voir et qui vous disent bah, « moi, je veux que vous vendiez ma maison ».
Oui, bien sûr.
C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est quoi la conversion?
Quasiment 35% aujourd'hui, c'est en train de monter assez fort. On a presque 35% de recommandations.
Donc, par réseau
c'est...
sociaux
sur Liberkeys au global, quoi. C'est-à-dire que sur l'ensemble des mandats qu'on signe, sur 100, on a 35 qui viennent de recommandations.
Vous offrez quelque chose en retour pour qu'il y ait ce chiffre-là?
Oui, on a différents, différents leviers. Tu vois, tu as le parrainage à la Boursorama qui marche plutôt pas mal.
Ouais.
Après, il y a plein d'autres choses qui sont des petits secrets qu'on utilise et qui marchent bien pour le moment, qu'on délivrera un peu plus tard. Mais... en effet, on essaie de le booster davantage, mais il est déjà présent en fait.
Et là, on parle de parrainage, pardon, je te coupe, parrainage business ou parrainage recrutement?
Alors, on fait les deux.
Vous faites les deux?
Ouais. Là, on est sur deux, quasiment à cheval sur deux discussions, mais sur nos consommateurs, on va aussi...
Désolé, j'écoutais pas. Non, je
c'est rassurant, mais au moins, j'ai 50% d'audience.
Mais c'est pour ça qu'on est deux.
C'est vrai.
On n'a qu'une oreille qui fonctionne.
D'accord. Oui, donc du coup, en fait, nos consommateurs, on va les chercher aussi nous-mêmes. Bien sûr, on fait de l'outbound.
Donc le lead,
classique.
On
fait de l'inbound et de l'outbound, et de manière assez classique. On récupère des techniques qui sont traditionnelles dans l'immobilier, qui sont des très bonnes à prendre. Et puis ensuite, on a d'autres techniques qui sont plus digitales et, j'ai envie de dire, entre guillemets, start-up, quoi, mais qui sont des modèles de...
Mais vous fonctionnez quand même comme les autres, je veux dire, qui vous appellent toute la journée pour aller chercher du mandat.
On a une équipe qui, en effet, est chargée de faire de la
pige. Ça fait partie du job, en fait, du mandataire. Parce que ça pourrait être un plus. Hein. J'imagine que ce n'est pas le plus intéressant d'aller chercher du mandat. Je ne sais pas.
Ce n'est pas le plus intéressant. C'est assez challenging. Mais après, c'est aussi une manière d'aller à la fois éduquer le marché. Parce que si quelqu'un essaie de vendre seul, il a beaucoup de chances d'échouer. comme on le disait tout à l'heure, 70% essaient seuls, mais 30% réussissent.
Donc ouais, ça traîne beaucoup sur PHP pour dire vous êtes sûr que vous voulez le vendre tout seul.
Et puis ensuite, alors on a plein de manières d'approcher et de trouver des personnes qui vendent seules, mais généralement ils essaient de fuir une commission élevée, une mauvaise expérience client, parce que c'est ce qu'ils ont en tête. Ils n'ont pas forcément connu une bonne expérience avant, donc il y a des très bons agents immobiliers, hein, il y a de très bonnes choses sur le marché, mais il y a une peur. Qui est lié à un inconscient collectif sur l'immobilier, sur l'agent immobilier. Donc ils essaient de vendre seul pour éviter une commission élevée, une mauvaise expérience client. Mais seuls, ils ont beaucoup de chances de ne trouver qu'une audience. Par exemple, tu vends sur PAP, tu vas toucher que l'audience PAP. Tu as peu de chances d'avoir la bonne offre, quoi. Parce que ta bonne offre, elle va être sur Sologer, Le Bon Coin ou Logitimo, etc. Et donc aujourd'hui, les agents immobiliers ont quand même la capacité d'aller diffuser sur l'ensemble des portails en instantané. Et de manière automatisée, et donc d'aller chercher la plus grande audience, donc la meilleure offre. Et après, je ne vais pas vous refaire le pitch, mais il y a un intermédiaire, il y a une statut professionnelle, l'acheteur il se comporte quand même assez différemment, il y a moins d'affect, et donc on protège quand même beaucoup mieux le net vendeur du client. Donc en fait, c'est lui apporter quand même beaucoup d'aide de le contacter en manière outbound.
Un candidat qui arrive chez vous aujourd'hui, est-ce que vous constatez en fait qu'il a quelque chose de différent de ce que peut avoir un autre agent immobilier? Est-ce qu'il y a souvent une discussion en interne qui revient chez vous pour dire bah tiens, c'est vrai qu'on a quand même constaté que nous on est ça, Liberkeys,
ou nous on a tel profil qui matche bien avec nous,
quoi. Voilà.
Ouais.
Ça peut être un truc sur un loisir, passion, je sais pas.
Je pense l'expérience client encore. Il y a vraiment un
presque un marketeur alors.
C'est un ADN, quoi. C'est-à-dire que chez nous il n'y a pas d'acceptation de la mauvaise expérience, et dès que on a énormément d'avis. Tu vois, on doit en avoir plus de 2000 si on prend les différents endroits, on a des avis. On est lancé depuis janvier 2018, mais on fait moins de 100 ventes la première année. Et on a un taux de feedback qui est assez fort et ça croît très vite.
Combien de ventes, là, cette année ?
On communique pas dessus, mais on va passer
en 2020
largement le millier en 2021. Donc, tu vois, on commence à faire pas mal de ventes. Donc, on commence à faire pas mal de ventes. On a beaucoup de feedback. On a tous nos feedbacks qui sont vérifiés. Et dès qu'on a un mauvais feedback, on a un processus en interne de traitement de ce feedback-là pour comprendre exactement ce qui s'est passé, redescendre sur le terrain et pouvoir
redessiner peut-être le process aussi, ça va jusque-là.
Exactement. Ouais. On a aussi, tu vois,
pas une confiance à tout prix dans son système. C'est très start-upper dans la manière d'aborder le business. Ben, on le re-réfléchit en continu.
En fait, on veut créer le bon système.
Ouais.
Et donc, le système doit être créé de manière itérative parce que on y connaît quelque chose depuis 4 ans.
Mais bien sûr. Ouais.
Et ta courbe d'apprentissage, elle est quand même comme ça. Donc, en fait, la deuxième année, tu connais un peu, mais tu connais pas non plus énormément. Donc, ça, c'est hyper important. On va même plus loin. On parlait de culture tout à l'heure. Chez nous, on n'a pas vraiment de valeurs. On a des leadership principles.
On en avait noté, des valeurs.
Principe de leadership.
Make consumer your obsession, start with people.
C'est ça, exactement. Et donc, on a Build Strong Leadership, On It and Beyond, Shoot for the Moon. Donc, tu vois, on a ces différents leadership principles-là chez nous. Ils sont hyper importants et structurants et on les utilise vraiment tout le temps. C'est-à-dire qu'on va les utiliser. Et à mon sens, on les utilise pas assez, donc on doit continuer de travailler là-dessus. D'accord. On les utilise dans le recrutement, c'est-à-dire tout le processus de recrutement, les questions, la scorecard, tout ça. On va utiliser les leadership principles pour vraiment capter le comportement de la personne et sa philosophie, ce qui n'est pas les compétences. Ensuite, on va dans l'onboarding, pareil, remettre du leadership principles, en parler beaucoup pendant l'onboarding et demander aux acolytes, ceux qui sont anciens dans l'entreprise, qui sont là depuis plus de 2 mois, de justement en parler beaucoup. Et ensuite, dans le management, c'est-à-dire que 50% de ta review annuelle va être faite sur ton adéquation vis-à-vis de notre culture.
Donc, c'est de l'informatif, pour bien comprendre. C'est de l'informatif ou c'est du tamis?
C'est un guide de comportement qui va t'aider à prendre des décisions.
Ah, voilà.
Et donc, du coup, si tu prends une décision, logiquement, tu t'inscris dedans. Et comment on le fait vivre?
Et sachant qu'elle peut ne pas être unilatérale, c'est-à-dire que le candidat à qui tu poses ou le collaborateur à qui tu poses ce genre de questions, tu le mets dans ce process-là, peut lui-même se dire je colle pas, quoi. C'est ça en fait.
C'est le but. L'idée
aussi. Le but.
C'est le but. Hein,
d'un sens comme dans l'autre. C'est pour ça que je parlais d'un côté pas unilatéral qui dirait de un mec de chez toi qui dit non, lui, ce candidat, il peut pas être bon chez nous, mais inversement aussi.
Inversement. Le mec peut se dire, et c'est le but.
Ouais,
mais tu vois, il y a quelques bouquins de Ben Horowitz là-dessus qui sont exceptionnels. Et il y en a un qui s'appelle « What you do is who you are » ou un truc comme ça. Mm-hmm. Et en gros, il explique justement très très bien que la culture est au service de la stratégie. Et donc, qu'à un moment donné, elle est faite pour filtrer ceux qui viennent, mais également, si la stratégie change, changer la culture. Et du coup, il est possible que des personnes ne soient plus en phase avec cette stratégie-là et donc bien potentiellement sûr. Vont partir. Donc en effet, c'est un super bon collagène pour faire tout le monde bosser ensemble. Et c'est un super bon structurant pour faire que tu as les bonnes personnes orientées vers le succès et la stratégie de l'entreprise.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que... Enfin, c'est intéressant, hein, évidemment. Mais là, on va quand même plus loin. On a franchi, en fait... on a l'habitude de parler avec pas mal d'entreprises qui nous parlent de valeurs. Mais on va généralement pas jusqu'au comportement. C'est-à-dire que le comportement, c'est intrinsèque. C'est quelque chose, en fait, d'inné, de la personne, etc. Ouais. Donc, du coup, on se laisse... d'habitude, une entreprise n'imagine pas qu'elle puisse... qu'elle puisse interférer en fait sur ce comportement.
Ouais. Il laisse apprécier ses valeurs, si c'est ce que
oui,
tu
voilà,
veux dire.
C'est ça.
Chacun est libre, mais c'est vrai que, et d'ailleurs tous ceux qui nous rejoignent, quand on lit ces leadership principles là à leur arrivée, on leur dit alors vous aimez, bah ouais, c'est totalement moi. Donc en fait on a réussi à créer, et les profils sont tous
hétéroclites. T'as un tamis juste beaucoup plus réduit.
Mais en fait les profils sont très hétéroclites, c'est-à-dire qu'ils viennent vraiment d'horizons totalement différents, mais il y a toujours ce lien commun qui les unit, qui est ces leadership principles. Et du coup, on a des équipes qui fonctionnent très, très bien ensemble. Mmh. Alors, il y a eu un peu de friture parfois, mais c'est classique dans une entreprise. Mais globalement, c'est assez perturbant comme ça peut bien se passer dans les équipes.
Si on revient au RH, je reprends ton exemple de consommateur.
Oui.
Lorsque ça foire, ou en tout cas, ça ne marche pas aussi bien, ou lorsque tu as un retour négatif, en tout cas d'expérience utilisateur et client, est-ce que vous vivez la même chose en tant que, avec des collaborateurs, pardon. Un collaborateur avec qui ça se passe mal, bon, tu ne peux toujours pas forcément lui demander, coche les cases qui ont fait que du coup, etc. Mais est-ce que vous avez ce feedback-là qui est important pour vous dans vos recrutements et dans votre management?
Bien sûr. Oui, bien sûr. Tu vois, typiquement, comment est-ce qu'on fait vivre un leadership principle? Il faut que tu aies une règle qui soit assez forte, limite gênante et désagréable pour les collaborateurs. Et du coup, tout le monde va l'avoir.
Ça, c'est intéressant. Donc, faut que ça soit marqué.
Faut que ce soit marqué. Après, au bout d'un moment, ça, c'est au début quand tu la mets en place. Après, au bout d'un moment, elle devient normale. Par contre, dès qu'une personne arrive dans l'entreprise, là, bah, tu as le même décalage et elle dit, c'est bizarre quand même ce que vous faites. 3 semaines, 1 mois ou 6 mois après, l'idée, c'est qu'elle soit totalement à l'aise avec cette idée-là. Et on a mis en place sur ce qu'on appelle Make Consumer Your Obsession, qui est fait de ton consommateur une obsession.
C'est la première, en fait. Hein,
c'est la première et on reste là-dessus.
C'est le pilier.
On a une règle qui est dure là-dessus, c'est que tous les fins de mois, il y a un call de chaque collaborateur à des clients. Mmh. Donc on reprend un listing.
De tes ventes, en fait, par exemple.
De tes ventes. Et on choisit des moments de la vente différents. Parfois, c'est un vendeur post-promesse de vente. Parfois, c'est un acheteur qui vient de nous appeler. Il n'a pas encore eu la visite. Enfin bref, tu vois, on a plein de trucs comme ça. Et on fait un forum à côté pour accompagner les personnes et les aider. On a aussi une formation interne pour aider les collaborateurs à être en succès dans ce call. Parce que parfois, tu as des développeurs qui ne sont pas habitués de téléphoner, qui d'ailleurs détestent le téléphone.
Tu fais revenir tout le monde à ce qu'est le business, en fait.
Et donc, du coup, surtout le consommateur. Mmh. Et ce que vit le consommateur. Et donc, tout le monde appelle tous les mois une liste de consommateurs avec quelques questions. Et là, du coup, tu rattaches à l'expérience client. Tout le monde est drivé par ça. Tout le monde parle au client, le connaît, le comprend. Et ce qui est très drôle, on a eu la première fois on le fait, on a toute l'équipe tech et produit qui est dans une salle, à une table, et qui, donc on tourne et on fait appeler. Il y a un data scientist qui a...
Attends, juste pour clarifier, moi, je n'appelle pas mes propres clients, en fait, ou mes propres contacts.
Ça peut être...
Je les appelle, par exemple, pour ceux de Jérémy.
Ouais, tu peux tomber sur un de tes clients, mais globalement, c'est assez rare, vu le volume qu'on adresse. Okay. Et on a un data scientist qui a monté un outil de matching, et cet outil de matching-là permet d'envoyer automatiquement des biens qui correspondent à des attentes d'une personne. Et donc le data scientist fait son call, le consommateur dit « mais non, mais c'est génial, j'ai adoré, c'est trop bien et tout, mais si je peux me permettre, il y a quand même un truc que je trouve, c'était au lancement, je trouve pas trop bien, c'est quand même que votre outil de matching, il est déconnant parce qu'il ne voit pas du tout ce que je dois avoir. » C'est le data scientist qui ne parle jamais au client, qui sur le call en speaker avec toute l'équipe, le consommateur lui dit c'est génial business-wise, mais le matching qu'on venait de lancer, ça marche pas. Et donc là, on raccroche, fou rire général. Ah, mais en fait, j'ai appris un truc sur ce que je fais dans mon bureau et je ne vois jamais le consommateur. Et là, j'ai vu l'impact direct que ça avait. Mmh. Et ça l'a gêné. Ah, donc du coup, en fait, je comprends que j'ai un impact sur les consommateurs et que je ne suis pas juste derrière un bureau chez moi. Et là, tout de suite, tu crées cette culture qui est importante.
Et justement, les vendeurs, par exemple, comprennent bien qu'ils sont appelés comme ça, de cette manière.
Ouais,
de vous expliquer les choses pour dire, voilà, ouais. c'est notre call du mois.
Ouais, ils adorent même. Enfin, ils se sentent valorisés et c'est hyper important. Ouais.
Ok.
Même parfois, il y a des mauvaises expériences. Donc, tu tombes sur quelque chose où il y a eu un problème. Et là, elle dit, mais je suis tellement content que vous me rappeliez, parce que en effet, il y a ça, c'est ça, mais bon, ça me fait plaisir, je vois que vous essayez de comprendre quand...
Ce qui t'évite des mauvaises notes aussi, en commentaire et en...
Ce qui... Alors, aussi, oui, ça nous va, on est OK avec ça. Ce qu'on veut vraiment, c'est comprendre pour les futurs.
Je suis d'accord, mais il y a un double enjeu. Il y a un enjeu aussi marketing, d'avoir quand même une bonne notation, parce que ça fait partie de la notation, l'expérience que tu as eue et la correction que tu pourras en avoir de ce même service qui n'a pas fonctionné.
Globalement, on a vraiment une très bonne expérience client sur quasi l'ensemble de tous nos avis et nos clients. Donc du coup, ça, en fait, c'est pas tant un problème.
Ouais,
par contre, ce qui est un problème, c'est que quand tu fais une erreur une fois, bah, c'est une comédie, mais quand tu la fais deux fois, c'est une vraie tragédie. Quoi. Mmh. Et donc du coup, c'est comment est-ce qu'on évite d'être dans la tragédie.
De multiplier les erreurs.
Ouais.
Si on avance un peu dans l'interview, est-ce que tu as une vision de ce que sera l'immobilier dans les 10 ans qui viennent? Je pense que... En tant que 60 millions d'agents immobiliers, il y a à peu près 60 millions d'agents immobiliers en France. Tout le monde a son avis sur la question.
Ouais.
Est-ce que tu peux éclairer tout le monde là-dessus?
Alors oui, complètement. je pense que l'agent immobilier a perdu du leadership sur son périmètre et sur sa valeur. Il en avait beaucoup avant. Il se fait quand même pas mal éclater par le digital.
Ouais.
Mine de rien. Même, on pourrait penser que non, mais en fait, quand même. Parce que soit il ne sait pas vraiment bien l'utiliser, soit les personnes comprennent qu'elles peuvent vendre seules dans les zones denses, là où les commissions sont les plus élevées, et où il y a du coup beaucoup d'argent à se faire pour la profession. Et parce que y a une productivité qui est un peu plus importante chez certains agents qui sont en train de prendre pas mal de parts de marché. Et je pense qu'on en fait partie d'ailleurs. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'agent immobilier doit transformer son périmètre, ne doit plus être le vendeur d'un logement immobilier, mais doit être le project manager du projet immobilier. Il doit gagner en efficience sur la verticale transaction, donc baisser sa commission, vendre un peu plus de biens. Du coup, il y aura mécaniquement un petit peu moins d'agent immobilier, mais je pense que c'est pas plus mal et il y aura plus d'efficience, l'agent immobilier travaillera mieux, le consommateur aura une meilleure expérience client, et tout le monde gagnera plus d'argent. Et ensuite, par contre, d'ouvrir de nouvelles verticales dans sa palette d'agents immobiliers.
Pour créer de la valeur.
Pour créer de la valeur supplémentaire et créer des revenus incrémentaux pour lui.
Ouais.
Et ça, c'est très important. Et ça,
comme quoi, par exemple?
Comme adresser le courtage, le crédit immobilier. Comme
d'accord,
adresser,
comme aux États-Unis.
Ouais, exactement.
On ne vend plus un bien, on vend un financement.
C'est un commercial. C'est un commercial de terrain, il connaît bien le client, il connaît bien l'immobilier, c'est lui qui gère le projet. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent que quelqu'un qui est dans un bureau et qui ne connaît pas le terrain ni le projet? Donc,
bien sûr.
En effet, il pourrait potentiellement aller là-dessus.
Vous, c'est votre ambition, demain?
Nous, ce n'est pas aujourd'hui notre ambition. Ce qu'on veut, nous, c'est un peu faire de lance de la profession, augmenter l'agent immobilier, lui permettre d'être plus productif, plus heureux sur la verticale transaction.
En tout cas, dans les 10 ans, tu le vois bien évoluer en ce sens.
Je pense que naturellement, les métiers vont converger. Il faut qu'on arrive à plateformiser le travail de l'agent immobilier de manière à ce que le consommateur, il ait un one-stop shop, il puisse arriver à un endroit et il ait un project manager qui va l'aider à gérer son projet.
T'as quoi d'autre comme vertical? Là, on vient de parler du financement. T'aurais quoi d'autre?
T'as le déménagement, t'as le homestaging, t'as les meubles, t'as l'ameublement du coup. Tu as les travaux, tu as énormément de choses.
L'attractivité même d'ailleurs, le homestaging, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, un agent immobilier ne t'aide pas en fait, à valoriser ton bien.
Mais non, parce qu'il n'est pas lui-même valorisé. Donc, il sait de signer des mandats, quoi. Il gagne sa vie, parce que l'agent immobilier, la plupart d'entre eux, quand même, il faut dire que soit ils sont indépendants, entrepreneurs, donc à la fin du mois, il faut manger, si tu ne vends pas, tu ne manges pas, premier point. Ensuite, quand ils sont salariés, alors généralement, c'est des contrats particuliers où en fait, il y a une avance sur commission. Donc, quand ils touchent la commission, ils remboursent l'agence qui vient de le payer pendant 3 mois. Donc, tu cours toujours après le cash, quoi. Donc, à un moment donné, on peut comprendre aussi que le système soit défaillant. C'est comme dans une entreprise. S'il y a des problèmes, déjà, il faut garder le leader. Ça commence par le leader. Et ensuite, deuxièmement, s'il y a des problèmes, c'est pas toujours le manager ou l'opérationnel. Ça peut être le système qui est défaillant, qui n'a pas donné toutes les clés aux personnes pour réussir. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, l'humain compense, mais il est quand même limité par le fait qu'il est humain, que le système est vraiment trop défaillant.
Si on revient au recrutement, forcément, Covid, qu'est-ce que ça a impacté sur un business de l'immobilier, en tout cas chez Liberkeys?
C'est simple, c'est rideau. Premier confinement, rideau, pendant un mois et demi. On a même eu des actes authentiques qui sont signés. Les clés sont... Nos clients se sont remis les clés au rayon pâte au supermarché. On en a rigolé plutôt vers la fin du premier confinement, quand ça allait mieux. Mais au début, on était un peu stressé pour ce qui se passait. Du coup, ça change beaucoup de choses aussi dans la culture de l'entreprise. On a été impacté, hein, bien sûr, il faut assurer. C'est extrêmement intense. Tous les dirigeants que j'ai rencontrés en ont parlé. Ça a été très intense pour le management aussi, mais ça a été aussi très intense pour les opérationnels. Chez nous, on avait une équipe tech et produit qui n'a pas été en chômage partiel. On n'a pas voulu en profiter, donc ils pouvaient bosser de chez eux, donc ils ont continué. Voilà, il y a plein de choses qui changent. Et puis après, il y a le déconfinement, le marché reprend, il y a un rebond exceptionnel. On fait en 2020 autant de transactions qu'en 2019 ou en 2021, quasiment, à modulo quelques dizaines de milliers. Donc en fait, il y a eu des rebonds exceptionnels, donc ça repartait très fort. Et puis ensuite, il y a eu le deuxième confinement. Donc voilà, et puis maintenant,
Et en termes de recrutement, ça a donné quoi en une année chez vous?
Tu changes le process. Alors nous, on recrutait déjà, on savait recruter à distance.
En nombre, je te parle de
ah, en nombre,
volume. Ouais. En volume, pardon.
En nombre de collaborateurs?
Ouais.
On a commencé, je crois qu'on a triplé la taille.
D'accord.
Et là, vous êtes combien de collaborateurs?
130.
130.
On a un peu moins de triplé, ouais. Je crois qu'on a fait 2.7.
Et là, pour 2022, il y a une ambition aussi, justement, avec la répartition dont on parlait, CDI et...
Oui.
En fait,
on a sur le deuxième modèle du coup qui est entrepreneur, on en parlait tout à l'heure avec en opposition au modèle salarié, enfin pas en opposition, mais en tout cas sur la structuration
complémentarité. Ouais.
La promesse est la même pour le consommateur. Par contre, on peut mailler beaucoup plus facilement le territoire. On a des personnes qui, dans le modèle indépendant, sont entrepreneurs, autonomes, proactives. Elles n'ont pas besoin de manager. Donc, tu peux avoir quelqu'un à Dunkerque, tu peux lui faire des formations continues, tu peux le voir, tu peux aller le voir sur le terrain aussi de temps en temps. Mais tu n'es pas obligé réellement de le manager. Tu peux y avoir. D'ailleurs, tu n'as pas le droit.
Hein. Ni donc d'ouvrir un desk. Quoi,
exactement. Parlait. Mais d'ailleurs, tu n'as pas le droit de le manager. Donc, ça prouve bien que l'indépendant est bien autonome. Par contre, du coup, ça te permet, toi, de payer au succès, d'être payé au succès de l'entrepreneur. Donc, tu as un BFR qui est beaucoup moins important.
Ouais.
Et puis, lui, il est aussi beaucoup plus intéressé, encore plus qu'un salarié BizDev à l'expérience client. Pourquoi? Parce que c'est son personal branding à lui. C'est sa marque personnelle adossée à la marque employeur Liberkeys.
C'est très important ce que tu dis, très intéressant. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'un salarié, un collaborateur, n'a pas conscience qu'il a aussi un...
Si.
Ça si, existe si. Quand même, t'as pas envie de faire une connerie.
C'est pas ce que j'ai dit, je dis que...
C'est plus présent chez un... Enfin, c'est quasiment omniprésent chez un indépendant.
Non, alors c'est pas tout à fait ce que je dis, c'est que l'indépendant, c'est une obligation. C'est-à-dire que s'il veut être en succès, c'est son nom en priorité qui est adossé à sa marque. Et d'ailleurs, c'est son projet personnel de changer de vie, d'être indépendant autonome,
de
travailler chez lui, de choisir ce qu'il fait un peu de sa vie, en s'adossant à une marque parce qu'il va y trouver telle chose.
Ouais.
Donc il y a juste un mindset qui est un peu différent. Où le bizdev, lui, va avoir une progression de carrière professionnelle avec différents jobs, il va peut-être même changer d'entreprise dans 3 ans ou 4 ans, ce qui est normal, ce qu'on invite aussi à faire, parce que c'est bien de changer d'entreprise, et donc tu vas avoir des différences comme ça. Donc le modèle est un peu différent, mais comme il prend un risque aussi, et que c'est lui qui porte la charge du BFR, nous, on le rémunère un peu plus, parce que c'est normal qu'il gagne plus, vu qu'il prend plus de risques. Donc, sur une commission fixe qui est relativement réduite, on s'est rapidement retrouvé, tu vois, dans un fee qui était très compressé, et que si on voulait augmenter la rémunération, il fallait augmenter le fee, parce que sinon tu perdais de l'argent. Et donc très pragmatiquement, c'est ce qu'on avait fait, et aujourd'hui on est à 6 500 €, ce qui nous permet de rémunérer plus de 3 000 € en moyenne par transaction notre agent indépendant, peu importe où il est en France. Et chez nous, ils font entre 2 et 5 ventes par mois. Donc mécaniquement, ils vont quand même gagner très très bien leur vie par rapport à ce qui se passe sur le marché de l'immobilier classique.
Et versus la prime de ton collaborateur qui lui a un CDI, c'est pas 3000.
C'est pas 3000, mais lui il a un salaire. Donc oui, son variable, sans rentrer dans les complexités, non, voilà, il a des bons variables aussi. Ouais. Exactement. Et donc du coup, il y a à la fois l'attractivité financière qu'on offre aux agents indépendants chez Liberkeys. Il y a également tout un ensemble techno et de produits qu'on va lui apporter, qui vont être assez complets, assez forts, qu'on développe depuis maintenant 4 ans et qui apportent beaucoup de valeur. Ensuite, on a un troisième volet qui est celui de l'apport d'affaires. Aujourd'hui, c'est un peu comme Uber à l'époque où tu avais un taxi qui tout le temps prospectait dans Paris. Et puis un jour, tu as Uber qui arrivait où les gens se connectaient à une application et le lead rentrait. Donc il tournait un peu moins, il prospectait moins, il faisait plus de business. Certes, après il y a eu des dérives, il y a eu d'autres choses, tu vois.
Oui, c'est...
Mais nous, on apporte aussi de l'affaire à nos agents. Et enfin, ils ont un coach particulier, un coach qui chez nous a 15 à 20 agents maximum et qui va venir coacher et l'aider à atteindre ses objectifs qu'il s'est fixé lui-même. Alors ça va être de la formation. Ça va être aller sur le terrain, comprendre pendant l'estimation d'un bien comment on peut l'aider par rapport à ce qu'il a fait.
Vous avez combien de coachs aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on va avoir 4 coachs là.
4 coachs. Vous avez des coachs ?
Ça croît assez vite. Hein.
Ouais. Est-ce que vous avez des managers ?
Alors, sur l'activité... Non.
Ouais.
Voilà. On a un manager qui gère les coachs, parce que les coachs sont salariés, mais on ne manage pas nos agents. S'ils veulent pas bosser, ils bossent pas.
C'est intéressant aussi de montrer à quel point le coach devient, enfin, le manager quelque part, en quelque sorte, c'est devenu coach. Un manager aujourd'hui, on parle de manager parce qu'il manage une équipe.
Ouais.
En réalité, on est tous managers à partir du moment où tu as une personne sous toi ou à côté de toi que tu accompagnes. Donc, en réalité, ça se transforme petit à petit en coach, c'est ce qu'on voit. Un coach n'est pas là, à la limite, pour te juger. Il y a une notion beaucoup plus pédagogique et helpful. Qu'un manager en réalité, que le manager doit avoir, mais qui, à travers le nom coach, fait beaucoup plus sens.
Est-ce que tous les managers ne sont pas en train de devenir des coachs ?
C'est ça.
Merci.
Je veux exprimer Thibaut.
Ah, il me connaît tellement bien.
C'est bien, mais au moins il est réveillé maintenant.
Comme j'écoutais, tu vois, je me suis dit, tiens.
En fait, ce que je crois, c'est que ça se chevauche. C'est-à-dire que quand on regarde un manager, s'il est bon, il est coach aussi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il va manager à la performance sa ressource. Mmh. Ici, on parle de, bien sûr, de business. En tout cas, non, tu peux être aussi en train de manager la performance d'un tech dans son delivery. Mais en tout cas, il a toujours une composante un peu coach. En revanche, elle n'est pas extrêmement développée et déployée dans le cadre d'un management parce que tu es dans une structuration d'équipe avec des collègues, des managers de managers, des objectifs. Et donc, tu as tout un environnement autour qui vient... mécanique, le système dont on parlait, qui est, s'il est efficient et pas défaillant, qui vient du coup structurer un peu le succès de la personne. Donc le manager, il est un peu en délégation vis-à-vis du système sur cette partie coaching. Mmh. Par contre, il est là pour développer la personne, comprendre quels sont ses points d'amélioration, s'assurer qu'elle vient bien à 9h30 et fait bien son travail correctement, regarder les objectifs et réparer si besoin, etc. Chose que par contre, le coach ne peut pas faire. Par contre, le coach, il est là pour mettre en succès le sportif. La personne sur le terrain qui se fixe lui-même des objectifs. Et donc là, par contre, c'est d'autres compétences. Et pour le coup, ça demande de la formation. Et n'est pas coach qui veut. Et on a mis 2 ans à monter ce modèle-là. On a mis du temps à comprendre aussi ce que ça demandait d'être coach et comment il fallait se positionner et quelle posture avoir vis-à-vis de son agent. On a d'ailleurs des formations là-dessus en interne où on envoie tout notre middle management en formation, mais aussi parfois uniquement le coach sur des choses assez spécifiques.
Ouais, merci beaucoup. Très intéressant. Shoot for the moon, qui est une de vos valeurs également, c'est-à-dire de savoir accepter les succès, savoir accepter donc les échecs derrière.
Ouais.
Et puis, on va vous souhaiter beaucoup de belles choses, beaucoup de succès justement.
Beaucoup de clés.
Beaucoup de clés, oui, effectivement. Et beaucoup
libertés.
De ventes.
Des libertés, exactement.
En tout cas, vous rénovez considérablement en fait ce qu'est l'immobilier.
On pourra en parler des heures.
Et on aime clair. Ça. Merci beaucoup.
Félicitations et encore merci de
venir. Merci beaucoup, Thomas.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Travailleuses, travailleurs.
1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau général.
Quoi qu'il en coûte.
Qui décrochera le job ?
Patati et patata.